vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps. Nous savons et nous pouvons croire que tu es présent au milieu de nous et que tu te donnes. Que tu es celui qui nous aime, que tu es celui qui règne et qui revient bientôt. Seigneur, donne-nous encore ce matin, par déjà ce qui a été entendu, par ce qui a été chanté, par ce qui a été prêché, par ce qui a été partagé. Donne-nous de rentrer encore davantage dans la communion avec toi et dans l'adoration en esprit et en vérité de qui tu es vraiment. Amen. J'aimerais lire avec vous le texte de l'évangile du jour et méditer un peu ce qu'il nous propose. C'est un texte qui est dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. C'est une partie de l'évangile de Marc où Jésus donne beaucoup de paraboles, et notamment beaucoup de paraboles sur le royaume de Dieu. Vous savez, il y a la fameuse parabole du semeur que beaucoup connaissent. Et puis il y a cette petite parabole qui vient juste après sur ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences dans le monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. » Par beaucoup de paraboles de ce genre, Jésus enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ce qui m'a interpellé ce matin en partageant et en préparant ce que je voulais vous dire, ce que je voulais méditer avec vous, c'est que ce court texte tourne autour de ce qu'est le royaume de Dieu, et tourne autour de ce qu'a été et ce qui est au cœur du ministère de Jésus. L'évangile de Marc, vous le savez sans doute, c'est un évangile très court, très condensé. C'est un évangile très percutant. C'est un évangile où Marc va à l'essentiel, et où il dit vraiment l'essentiel de ce que Jésus est, de ce qu'il est venu accomplir, et pourquoi il l'a accompli, et pour qui il l'a accompli. Et dans le chapitre 1 de Marc, au verset 15, on voit que Jésus va commencer son ministère à un moment précis. D'abord, quelqu'un prêchait avant lui. C'est Jean le Baptiste. Et quand Jean est arrêté, alors commence visiblement le ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus commence après que Jean l'ait baptisé. Et voilà ce qui est dit. Marc 1, verset 15. Oui, on est vraiment au début de l'évangile de Marc. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà ce qui introduit le ministère de Jésus. Voilà ce que dit Jésus, ce qu'il prêche, et voilà ce qui justifie pour lui le fait qu'il commence son ministère. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Frères et sœurs, c'est quoi la bonne nouvelle dont parle Jésus ? Vous savez que bonne nouvelle, ça se dit en grec evangelion, ce qui veut dire évangile. L'évangile pour Jésus, ce n'est pas le texte que l'on va lire. Il a été écrit bien longtemps après lui. L'évangile pour Jésus, ce n'est pas une doctrine ou une théologie ou une discussion sur les textes qu'on a écrits après lui. L'évangile pour Jésus, c'est le royaume de Dieu est proche. Et c'est cela la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. C'est cela la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Ça y est, le royaume de Dieu est proche. Il est approché. Il est accessible. Enfin, le temps est accompli. Et frères et sœurs, Jésus a dit cela quand ? Il y a 2000 ans. Pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Il y a donc 2 jours. C'était avant-hier. Le royaume de Dieu est toujours proche. C'est toujours la bonne nouvelle que l'Église doit annoncer. Le royaume de Dieu est proche. Et il est accessible. Il est là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas que nous nous réunissions tous les dimanches à 9h. La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'il y a 2 milliards de chrétiens sur Terre. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'Église du Christ est la meilleure Église du monde. La bonne nouvelle, c'est que les temps sont accomplis et que le royaume de Dieu est proche. Et si l'Église est vraiment faite des disciples du Seigneur, c'est cela dont elle est témoin et de rien d'autre. Autrement, elle n'est témoin que d'elle-même et pas du royaume de Dieu qui est proche. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que finalement, si nous sommes vraiment les disciples de Jésus-Christ, c'est cela dont nous témoignons. C'était il y a 2 jours. C'était avant-hier. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Jésus dit cela au présent. Parce qu'il y aura un demain. Et c'est quoi le demain ? Le royaume de Dieu est là. Il n'est pas proche. Il est là. Et tout œil le verra. Et le royaume de Dieu sera confondu avec le règne de Dieu. Une évidence pour tous. Et ce sera à la fois le temps glorieux du règne du Christ, glorieux de la Jérusalem céleste, et glorieux du jugement dernier. Mes frères et sœurs, c'est demain. C'est demain. Un jour est comme 1000 ans. Nous sommes encore dans l'aujourd'hui où il est proche. Et demain, il est là. Et l'apôtre Paul dont on a parlé, il vivait exactement dans cette conviction. Qu'est-ce qui l'a amené à défier, en fin de compte, tous les défis, tous les challenges, toutes les persécutions qu'il a connues ? C'est parce qu'il a compris, reçu et cru que le royaume de Dieu était proche, qu'il était pour tous et que Jésus revient bientôt pour régner. Il était donc temps. C'est encore le jour où c'est possible de l'annoncer. Demain, il n'y aura plus à annoncer. Il sera là. Frères et sœurs, ça fait 2 jours donc que nous sommes dans le même jour. Mais demain, il sera là. Et demain n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Pourquoi je vous dis 2000 ans, Paul le croyait déjà. Et nous sommes 2000 ans plus tard. Nous sommes toujours là, dans ce jour où le royaume est proche et où on doit l'annoncer. Et c'est ça la bonne nouvelle dont l'Église est dépositaire. Et peut-être pouvons-nous avoir un regard sur le fait que bien souvent, les Églises, je fais exprès de ne pas dire l'Église, les Églises n'ont pas été à la hauteur de la mission et de la vocation qui était la leur, et encore aujourd'hui. Le premier péché de l'Église, je parle en mon nom, c'est de croire quel est le royaume de Dieu. Non. Si l'Église était le royaume de Dieu, il n'y aurait plus aucun mort dans l'Église. Il n'y aurait plus aucune maladie. Toutes les larmes seraient essuyées. Mais l'Église annonce le royaume de Dieu et en vit déjà les arts. L'Église annonce le royaume qui vient, et est déjà faite de ceux et celles qui y adhèrent et qui en ont l'identité, tout en restant encore dans ce monde, parce que nous ne sommes pas encore demain. Il vient bientôt, mais il n'est pas encore là, en évidence pour tous. Il suffit de regarder l'actualité, ça se passe de commentaires. Alors, frères et sœurs, pour autant, Jésus dit, le temps est accompli. Et sur la croix, 3 ans plus tard, que va dire Jésus ? Tout est accompli. Alors, en quoi consiste ce royaume de Dieu ? Quelles sont ses caractéristiques fondamentales ? Qu'est-ce que Jésus annonce ? Qu'est-ce que rend possible ? J'y réfléchis et je me suis dit, oulala, j'ai 20 minutes, c'est un peu court. C'est un peu court, non pas parce que c'est une dissertation intellectuelle, il y aurait de quoi méditer pendant des heures. Il y aurait de quoi nous instruire pendant des heures, voire des jours, pour bien comprendre, pour bien adhérer à notre vie, à notre mission et à notre vocation. Et je vais simplement partager 4 éléments. Quelques caractéristiques fondamentales du royaume que Jésus annonce, que Jésus dit proche, et dans lequel Jésus seul peut nous introduire. Et nous allons voir pourquoi c'est cela la bonne nouvelle, pourquoi c'est une bonne nouvelle, et c'est toujours une bonne nouvelle. Tout d'abord, Jésus dit une chose extraordinaire dans l'Évangile, qui a été écrit après lui. Il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » C'est extrêmement important, ça. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain. Le royaume de Dieu n'est pas de l'ordre de la création de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas de l'ordre de la création qui a chuté. Il ne peut être de l'ordre de ce qui a chuté, de ce qui a péché. Il n'est pas de ce monde. Une réalité tout autre. Et pourquoi c'est important ? Parce que justement, le royaume de Dieu renverse toutes les valeurs que ce monde considère comme les bonnes. Souvent, quand je pense à ce que je fais et dis, je vois ce que peut être un royaume tel que l'homme voudrait qu'il soit. Je vais faire une comparaison un peu osée. Je compare Jésus et Hitler. Hitler, il promet un règne de 1000 ans. Il séduit un peuple entier par la puissance, par la force, par les armes, par une religion. Les sentiments défilent, on est là, on est puissant, et on va écraser tout le monde, et on va imposer le règne de la race supérieure, et on suit le chef. Et on sait où ça a mené le monde. Que dit Jésus ? Mon royaume n'est pas de ce monde. Moi, je me fais le serviteur de tous. Moi. Je me fais le serviteur de tous. Et moi, je donne ma vie pour mes amis. Je ne prends pas la vie des autres pour imposer mon ordre. Renversement complet des valeurs. La puissance de Dieu ne peut pas se comprendre selon les modes de la puissance que l'homme comprend. Dieu n'est pas tout puissant au sens où nous attendons la toute puissance. Hitler voulait être tout puissant. Regardez ce que ça a donné. Louis XIV voulait être tout puissant. Regardez ce que ça a donné. Napoléon voulait être tout-puissant. La France voulait être tout-puissante. L'Europe veut être tout-puissante. Ça, ce n'est pas la puissance du royaume. Jésus s'est fait serviteur. C'est un renversement complet. C'est quand je suis faible que je suis fort. Ça fait 2000 ans que cette phrase que Paul a dit est explosive. La toute puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je renonce à la puissance telle que l'homme la considère. Alors là, Dieu peut accomplir en moi la puissance du royaume de Dieu, comme une petite graine qui va germer et porter du fruit pour tous les autres. C'est important parce que, voyez-vous, dans l'histoire de ces deux jours qui nous séparent de ce qu'a dit Jésus, l'Église ou les Églises ont bien souvent voulu régner. Et quand elles ont voulu régner sur terre, regardez ce que ça a donné si vous connaissez un peu l'histoire. Une perversion de ce qu'est le royaume de Dieu. Une perversion. Par la puissance qui vient de ce monde, non pas la puissance qui vient de Dieu. La tentation est toujours là, frères et sœurs. Elle est toujours là, même à l'échelle locale. De vouloir incarner le royaume par la puissance qui vient de ce monde, non pas par la puissance qui vient du Christ mort sur la croix, serviteur de tous. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est génétique, c'est ontologique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas au monde présent. C'est génétique. Vous êtes d'un autre ordre, d'une autre réalité, de la seule réalité qui s'imposera. La seule réalité qui donne du sens à tout ce que ce monde est. C'est que Jésus vient et que le règne sera visible pour tous, bientôt. Pourquoi le redire avec force? Parce que je crois que les églises aujourd'hui, et je pense particulièrement à l'église de mes parents, à l'église dans laquelle j'ai grandi, elle est soumise à des tentations, à des compromissions absolument épouvantables. Parce qu'elle a perdu de perspective qu'elle n'est pas le royaume et qu'elle doit attendre qu'il vienne et annoncer ce royaume qui n'est pas de ce monde. Et puis Jésus nous a dit aussi une chose pour nous faire comprendre. Vous savez que Jésus, normalement dans un royaume humain, on va dire, il y a une espèce de code de constitutionnalité. Si tu es de ce royaume, tu vis comme ça, tu fais ça, tu penses ça. Jésus a dit très très vite, très très tôt au début de son ministère, et c'est Matthieu qui nous le rapporte. Quelle est la charte du royaume? Qu'est-ce qui constitue la vie dans le royaume? Alors, on n'a pas le temps. Relisez les béatitudes. Heureux les doux, heureux les pauvres, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui sont persécutés, heureux les humbles de cœur. C'est ça, la vie dans le royaume. C'est ça qu'on devrait vivre dans l'Église. C'est un gros travail. Qui nous y aide? Qui nous y aide? L'Esprit Saint. Seul l'Esprit qui vient du royaume peut nous faire vivre la vie du royaume. C'est impossible par nos capacités humaines, puisqu'elles ne sont pas du royaume. Et Jésus est logique. Qu'est-ce qu'il dit à Nicodème? Il faut naître de nouveau. Il faut que tu renaisses à un autre royaume d'eau et d'esprit.
La charte du royaume. Puis ce royaume, il est extraordinaire, pourquoi? Parce que voyez-vous, ce matin, j'étais frappé, j'ai cherché sur un site qui s'appelle lueur.org, je vous le recommande, mais une concordance avec les Strong. Alors les Strong, ça permet de voir la racine du mot que vous cherchez et aussi l'occurrence qu'il y a dans la Bible. Royaume de Dieu, règne de Dieu, ça n'apparaît jamais dans l'Ancien Testament. En entier. Royaume de Dieu, ça n'apparaît pas. Règne de Dieu. Ça n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Dans à peu près 79 versets. Par contre, dans l'Ancien Testament, ça apparaît toujours en filigrane dans les psaumes, dans Ésaïe et dans Daniel, et surtout dans Daniel, où on parle d'un royaume qui renversera tous les autres et qui sera donné aux saints en héritage pour l'éternité. Autrement dit, Jésus arrive dans une terre préparée. Tout est accompli, vous le savez bien. Je viens accomplir ce qui est annoncé depuis 7 siècles et demi par Ésaïe, de ce qui était préfiguré par le royaume terrestre de David, auquel Dieu a fait une promesse.
et de ce qui est annoncé prophétiquement d'une manière qu'on ne peut recevoir que dans la foi, dans le livre de Daniel. Vous savez que le livre de Daniel est repris énormément dans l'Apocalypse. Ce n'est pas étonnant. Tout est accompli. Et Jésus, il commence son ministère avec quelle référence lorsqu'il va prêcher? Quel est le texte biblique de référence pour son ministère? C'est Ésaïe. C'est Ésaïe. 7 siècles et demi avant qu'il annonçait. Autrement dit, tout est clair. Le royaume de Dieu, voilà, il était annoncé, Jésus vient l'accomplir. Mais ce royaume, qu'est-ce qui est fondamental? Je vais oser faire un petit jeu de mots, j'espère qu'il n'est pas maladroit. C'est le royaume de l'abolition de la peine de mort. Un seul est mort pour tous, pour que nous ne mourions plus des conséquences de nos péchés. C'est le royaume où la mort est abolie, parce qu'un seul est mort pour tous. S'il y a bien une abolition de la peine de mort à défendre, c'est celle-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre celle qui est la réalité terrestre. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'abolition définitive de la peine de mort, conséquence du péché. Parce qu'un seul est mort pour tous. Un seul est mort pour tous. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que le prix a été payé. Et si je crois à cette charte du royaume, si je crois à ce que Jésus est venu accomplir, alors je suis au bénéfice de cette abolition de la peine de mort que je devais subir. Vous savez ce que c'est que qu'il reste pendant 40 ans dans le couloir de la mort aux États-Unis et que l'on vient annoncer qu'on s'est trompé et qu'on le libère? C'est ça. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est ça, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle. Tu n'es plus condamné à mort. La mort n'aura pas le dernier mot. Et c'est ce que nous dit l'Apocalypse. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort dans les temps de feu. C'est le royaume où la peine de mort n'existe plus. Elle est abolie. Et après, dans tout ce que Jésus va démontrer par ses actes, dans tout ce que Jésus va accomplir par ses actes pendant 3 ans avant la croix, c'est le royaume de la consolation. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Je sais que le royaume n'est pas encore là, que nous ne sommes pas encore totalement consolés. Et je n'entre pas dans les détails, tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Les morts, et que nous ne voyons plus, et que nous revenons. La consolation. Et puis, la victoire sur la mort, elle est abolie, et on verra définitivement qu'elle n'existera plus. Et surtout, le royaume où le mal n'existera plus. On n'y pensera plus jamais. On pourra se lever le matin sans avoir aucune pensée de mal. Parce que l'origine du mal sera aussi jetée dans les temps de feu. Est-ce que c'est déjà accompli, frères et sœurs? Non. C'est aujourd'hui, et c'est demain que ça arrivera. Mais déjà aujourd'hui, on peut vivre cette identité du royaume et en témoigner.
Et enfin, c'est le royaume, et ça mon cœur y aspire. Quand je pense à nos frères et nos sœurs persécutés, quand je pense à tous les hommes et les femmes qui souffrent, même s'ils ne sont pas chrétiens, c'est le royaume de la paix et de la vraie justice. Jésus est le prince de la paix. J'ai soif que vienne la vraie justice. La vraie justice. Et je n'ai pas peur de la justice de Dieu, parce que Jésus m'a justifié. Mais j'ai hâte que soit établie la vraie justice. Celle que seul Jésus peut rendre. Frères et sœurs, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Jésus vient dire, tout cela, ça y est, c'est le temps. Je viens l'annoncer, je viens l'accomplir, et je viens rendre possible d'en être membre.
Je viens rendre possible d'être membre du royaume, d'en être bénéficiaire et d'y entrer. Et vous savez bien, frères et sœurs, comment on rentre dans le royaume? C'est très simple. On rentre par la porte. Mais la porte, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. L'Église, en fin de compte, elle annonce une porte. Et elle témoigne que celui qui franchit cette porte, il change de réalité. Il n'appartient plus à ce monde. Il est déjà, clairement, membre du royaume. Il en a l'identité. Il en a l'identité. Mais comment franchir la porte? Parce que vous voyez, la porte, c'est une image. Comment la franchir? Très simple. Que dit Jésus à Nicodème? Naître d'eau, d'esprit. Alors c'est clair. Je pense qu'on se comprend. C'est le baptême. Mes frères et sœurs, c'est pas le baptême comme un truc théologique. C'est pas le baptême comme un truc doctrinal où il faut 3 ans pour comprendre ce que c'est. C'est un acte de foi et d'obéissance. Où on reçoit le passeport. Mais c'est étonnant, le baptême, il signifie quoi? Pour passer par la porte, il faut que tu meurs. Et que tu ressuscites. Parce que c'est le royaume où la mort est vaincue. Tu dois donc mourir pour elle. Mais tu meurs à la suite de Jésus. Et tu ressuscites avec lui. Et en ressuscitant avec lui, tu reçois la force d'être de ce royaume, c'est l'Esprit Saint. Tu n'es d'eau et d'esprit. C'est tellement clair quand on y pense. C'était une bonne nouvelle. Jésus l'a annoncé, excusez-moi l'expression, pas à des docteurs en théologie. D'ailleurs, ils n'ont pas compris. Et ceux qui l'ont compris, parce que leur cœur avait été touché, on a en nous la pensée de l'éternité. On a en nous ce cœur qui attend. Et quand on regarde un homme ou une femme qui n'est pas chrétien comme cela, on sait que son cœur est prêt à cela, parce qu'il attend cela. Il attend ce royaume où la mort n'est plus,
où Dieu règne dans la paix et la justice. Alors, frères et sœurs, quelle est la mission de l'Église jusqu'à ce demain qui est très très proche? Un de mes amis disait, bon, si on considère que depuis Jésus, ça fait 24 heures, et que le retour de Jésus, c'est le jour suivant, on est à peu près, allez, à 23h59. On n'a jamais été aussi proche. C'est comme cela qu'il faut vivre. C'est comme cela que vivait Paul. 23h59. Le royaume de Dieu là, tout proche. Et Jésus le dit, je me tiens à la porte et je frappe. L'Église, c'est donc cela qu'elle annonce, et uniquement cela. Alors bien sûr, vous allez dire, mais alors pourquoi revenir à l'Église? Pourquoi ne pas être dans les rues en annonçant tout le temps? Je pense que il faut bien sûr qu'on mène les deux. Parce que une fois qu'on est baptisé, tout est accompli en Jésus. Mais en nous, est-ce que tout est accompli? Par le baptême, le royaume a été semé en nous comme une petite graine. Il faut toute notre vie pour qu'il s'épanouisse. Et au fur et à mesure qu'il s'épanouit, il y a plein de choses qui doivent mourir en nous. C'est ce que dit Paul, hein? Le vieil homme, il doit chaque jour être crucifié. Et moi, j'ai 56 ans et c'est pas terminé. Je sais déjà les parties de ma vie où, par la foi, je sais que Jésus a accompli quelque chose. Je sais que cette partie-là de ma vie est déjà imprégnée de l'esprit du royaume. Mais telle partie de ma vie a encore de l'exhortation des frères et des sœurs, de la prière des frères et des sœurs et de l'œuvre de l'Esprit Saint pour être transformé à l'identité du royaume. Et Paul l'a dit jusqu'au bout. Il avait cette écharpe dans la chair que Dieu maintenait. Il avait conscience que l'homme nouveau périssait au fur et à mesure que l'homme ancien périssait. L'Église, en fin de compte, c'est un lieu où on apprend à mourir. Pour vivre. Pour vivre. Frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. C'est pour tous. C'est pas que pour nous, Pour le musulman, pour le païen, pour le bourreau de Daesh, c'est aussi pour lui. C'est aussi pour lui. C'est terrible de dire ça. Mais les chrétiens persécutés, j'ai entendu des témoignages, comme Pierre l'a dit, de chrétiens syriens qui disaient « Mais moi, je prie pour mes bourreaux. » Parce que Jésus est mort pour eux aussi. Il n'y a pas plus puissant pour la conversion d'un fou furieux que la prière de ceux qui le persécutent. Et croyez-moi, on va avoir un réveil drôlement puissant dans le Moyen-Orient dans peu de temps. Vu ce qui s'y passe. Comme le disait Marcus, le sang des martyrs, c'est de la semence de chrétiens, disaient les pères de l'Église. Soyons attentifs, frères et sœurs. Soyons attentifs. Regardons cela avec la perspective qui vient. Il y a un combat spirituel. Parce qu'il y a un autre royaume à l'avenue du Seigneur. Mais il vient. Et la bonne nouvelle, aujourd'hui, on peut changer d'identité. Et rentrer déjà dans ce royaume pour goûter la sécurité, la paix et une vie sous le regard de Dieu. Amen. Thank you.